Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui avec le comité Pax Rona. Je suis avec Dodo, Loïc, Anne-Marie et Brigitte. Bonjour à vous. Alors, je suis très content de vous accueillir ici sur les studios de Radio Intervalle, puisque c'est vrai que l'actualité est malheureusement riche en conflits à travers le monde. Et puis, on oublie souvent qu'il y a une solution pour éviter la guerre, c'est de choisir la paix, tout simplement. Ça paraît une évidence. Et pourtant, il faudrait peut-être le rappeler à nos politiques. Et justement, j'aimerais qu'on aborde le sujet de l'Ukraine. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un bref rappel historique de cette guerre et de ses enjeux ?
Alors, une introduction rapide, effectivement. Hein. Il faut se souvenir donc, que l'agression de la Russie, c'était le 24 février 2022. Et cette agression a constitué une escalade par rapport à la tension, la crise qui existe entre l'Ukraine et la Russie depuis 2014. Voilà. Alors ensuite, beaucoup de monde se sont posé des questions, bien sûr. On peut peut-être définir ce qu'est une agression, en fait, parce qu'on parle beaucoup d'agression. Alors, comme nous, on s'appuie beaucoup sur les déclarations de l'ONU, et qu'on aime travailler avec l'ONU, on a repris une des déclarations de l'ONU, une des définitions plus exactement, donc, qui date du 14 décembre 1974, donc ce n'est pas du tout récent, et qui définit l'agression et l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État. Quand on lit cette phrase, donc au sens de l'ONU, effectivement, c'est bien une agression de la Russie vers l'Ukraine. Il n'y a pas de... Et ça, il faut le condamner. Hein. Et bien le sûr. Mouvement de la paix le bien, condamne. Il n'y a pas de doute. Par contre, après, on peut essayer d'aller un peu plus loin et de regarder sur le temps long, comme on dit, mm-hmm. hein, sur le flux historique, savoir ce qui s'est passé avant cette agression de février 2022. Il y a eu quand même aussi, de la part de l'Occident et de l'Ukraine, une certaine forme d'agression. À la fois économique et à la fois idéologique. Alors économique, bon, les plus jeunes s'en souviennent peut-être pas, mais dans les années 1990, alors que l'Union soviétique disparaissait, hein, partait un petit peu en lambeaux, Gorbatchev avait fait toute une série de concessions pour essayer d'intégrer ce qu'il appelait, lui, la maison Europe. Et tous ces efforts ont été vains, puisque toutes les portes lui ont été fermées. Donc c'est déjà au niveau économique une porte qui se fermait. Et c'était très dommageable pour l'ex-Union soviétique. Hein. Donc dans cette guerre économique, il faut se rappeler que le PIB de la Russie a chuté à peu près de 55%, que 50% de la population était passée sous le seuil de pauvreté, le taux de mortalité a augmenté de plus de 30%, Et surtout, l'espérance de vie est passée en quelques années, entre 88 et 95, de 69 ans à 64 ans. Voilà. Ensuite, il y a eu une agression idéologique de la part de l'OTAN, puisqu'il y avait eu, au moment de la fin du bloc de l'Est, il y a eu des accords, notamment avec l'Allemagne, pour répartir un petit peu les frontières. Et... bon, ça a été mal vécu par la Russie. Et donc, effectivement, il y a quelque part une forme d'agression. Et quel que soit l'État, d'ailleurs, je pense que ce type d'agression peut être très mal vécu. Donc on n'excuse pas la Russie en 2022, mais on essaye aussi de comprendre le contexte qui a amené à cette situation aujourd'hui.
Donc finalement, ce n'est pas des torts partagés, mais on peut comprendre la Russie. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, le mouvement pour la paix propose de revenir sur la table des négociations.
Alors oui, de toute façon, dans les conflits, on le sait, mais peut-être qu'on ne s'en souvient pas. Tous les conflits se terminent à un moment donné par des négociations. Il faut que les gens se mettent autour de la table et discute pour trouver une solution. Alors, c'est vrai qu'il y a eu récemment en Suisse une réunion avec Kamala Harris, Zelensky, bien sûr, Macron, où tous les gens se sont rassemblés pour essayer de parler de paix. Alors, il n'y avait pas les Chinois et il n'y avait pas les Russes. Oui. Donc déjà, ça limite un petit peu le débat. Et de toute manière, du côté de Zelensky, on parle de paix. Mais du côté de Poutine, c'est vrai que lui, il voit plus ça comme une reddition de l'Ukraine. Donc aujourd'hui, on est dans un processus qui pourrait amener à travailler sur la paix. Mais malheureusement, on en est encore un peu loin.
Alors, est-ce qu'on peut parler du bilan actuel parce qu'on parle d'une véritable guerre avec beaucoup de morts. Où est-ce qu'on en est ?
Alors, là, c'est un peu difficile d'avoir des chiffres, aussi bien du côté de Kiev que de Moscou. Hein. Les gens sont très... ne veulent pas donner de chiffres. Alors, si on regarde quand même en cherchant un petit peu, les chiffres qu'on a récupérés datent de février 2022. En février 2022, il y avait à peu près 18% du territoire ukrainien qui était occupé par la Russie. 6,4 millions d'Ukrainiens qui sont réfugiés. Et alors, les chiffres qu'on donne, ben c'est Moscou qui donne des chiffres pour les Ukrainiens, et les Ukrainiens pour Moscou. Hein. Donc après 2 ans de guerre, à peu près, Kiev affirme avoir mis hors de combat 392 000 soldats russes. Et Moscou estime, lui, avoir éliminé 383 000 soldats ukrainiens. Mais c'est vrai que les deux parties restent assez discrètes. On sait aussi que du côté de l'Ukraine, ils ont abaissé l'âge de conscription. Et donc, ça veut dire qu'il manque de soldats. Ils ont besoin que des hommes aillent sur le terrain pour combattre. Ça veut dire qu'ils ont certainement beaucoup de blessés, beaucoup de morts aussi, et beaucoup de personnes handicapées. Donc là aussi, c'est un vrai problème, parce que comment va s'en sortir l'Ukraine quand la paix va s'imposer, quoi, en fait.
Alors c'est vrai qu'on a déjà une pensée pour l'Ukraine, c'est vrai qu'elle vit une guerre, on pense à la population, mais est-ce qu'on n'est pas nous aussi concernés? Est-ce qu'on n'est pas à la veille d'une guerre qui pourrait s'embraser au niveau européen?
Au niveau européen, je ne sais pas. Mais par contre, en France, ce que je vois, c'est que le gouvernement, lui, ne fait absolument rien pour trouver une solution pacifique. Donc, européen, je ne suis pas, je ne sais pas assez. Je me rends compte qu'il y a en France une instrumentalisation du conflit. Et pour moi, la dernière ligne rouge a été franchie lorsque le chef de l'État a autorisé l'envoi de soldats français en Ukraine en tant que formateurs. On est devenus des co-belligérants. Et plus grave encore, cette décision n'a absolument pas été débattue et encore moins votée par le Parlement.
Ça, c'est quand même incroyable que dans notre société démocratique, le président puisse partir en va-t-en-guerre de manière complètement isolée comme ça et impliquer tout un pays.
Ah oui, parce qu'il a décidé seul cette participation à la guerre et ça, c'était quand même avant la dissolution.
Donc, c'est vrai qu'il y a cette expression « civis pacem, para bellum ». Si vous voulez la paix, il faut préparer la guerre. Vous vous inscrivez en faux, je suppose, à Pax Rona.
Oui. Si on veut la paix, il faut préparer la paix, bien sûr. Oui, et il y a diverses manières de le faire. Et entre autres, en se rappelant toujours que toute guerre finit par une négociation, alors autant y aller le plus vite possible.
Oui, c'est vrai qu'on a l'exemple, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne n'avait pas été impliquée dans les négociations. Et il y avait une espèce de ressentiment qui les avait préparés finalement à se réarmer et à amener Hitler au pouvoir. Donc c'est très grave de vouloir faire perdre quelqu'un à tout prix.
Oui, je pense qu'il ne faut pas qu'une des deux parties soit humiliée. En fait, c'est ça le point important. Et il faut vraiment se mettre autour d'une table et échanger et avoir une construction de la paix qui soit vraiment solide et équitable pour tout le monde.
Et alors, quand on dit construire la paix, qu'est-ce que vous entendez dans l'idée de construire la paix? Comment est-ce qu'on construit la paix pour éviter de continuer cette guerre et ces guerres?
On fait entre autres ce que vous faites, vous informer, faire réfléchir. On va voir les enfants. On porte on porte la petite colombe de la paix, c'est-à-dire que c'est un comportement citoyen de se former à la paix. Que dire, vous parliez à l'instant des négociations entre l'Ukraine et la Russie. Monsieur Poutine se dit prêt en tout moment et en tout lieu à négocier pour la paix. Et en même temps, à Hanoï récemment, il disait qu'il prévoyait l'opposition de l'Occident. Bon, nous savons tous que peut-être un mois et demi après la déclaration de guerre, Zelensky et Poutine avaient émis l'idée de négocier déjà la paix. Or, ça fait maintenant un an. Qui s'y est opposé ? Oui, deux ans, oui. Qui s'y est opposé ? L'Occident ?
Il y a aussi peut-être des intérêts financiers. J'avais lu dans un de vos communiqués au mouvement de la paix que, par exemple, les États-Unis profitaient de cette guerre pour essayer de se débarrasser de ses armes. Est-ce que ce n'est pas aussi une explication parfois aux échecs des pourparlers ?
Oh, mais sans doute, mais à propos des armes, on dira entre guillemets périmées des États-Unis, il y a eu des grosses livraisons. Alors, je change de sujet, mais c'est juste une parenthèse, qui ont été envoyés en Cisjordanie aux colons israéliens. Oui, ils sont armés par les... Alors, c'est autre chose.
On va en reparler dans une autre émission. En tout cas, c'est vrai que cette histoire d'armes est quand même... parfois, on dit le nœud de la guerre, c'est la partie économique, finalement. Que propose le mouvement de la paix ? Qu'est-ce que vous faites de votre côté, de manière concrète, pour essayer d'informer, pour essayer de mobiliser, pour essayer de sensibiliser la jeunesse?
Écoutez, dimanche dernier, nous étions à Lézan. Il y avait une fête à Lézan. Ben, nous y étions, prêts à répondre à tout le monde, aux jeunes, aux moins jeunes, et à discuter. La semaine dernière, j'étais chez Leclerc, à la caisse, une caissière qui se plaignait de l'exploitation de son patron, Michel Leclerc. Je lui disais, mais vous allez voter. Toute occasion, quand on est pacifiste militant, toute occasion est bonne. Mais on n'est peut-être pas assez nombreux. Notre souci, c'est celui-là. Alors après, on va dans les écoles, on fait des conférences. Il y a mille choses. Il y a mille possibilités.
Oui, on participe
d'action.
À des manifestations, des rassemblements.
Oui.
On est toujours présent. On est au contact des gens, on essaye d'expliquer. C'est comme ça, c'est un travail de fourmi, en fait.
Artisan de la paix, ça veut dire petit travail souterrain.
Ouais. Oui, oui, oui. Et puis également, je lisais quelque chose dans tes papiers récemment, défendre la culture aussi. Défendre la culture, mais ça fait partie. Par exemple, sur Avignon, notre comité travaille avec Utopia. Avec d'autres associations, la LDH, le MRAP, Amnesty International, enfin d'autres associations, mais on fait partie de collectifs qui défendent les droits humains. La paix, c'est ça, c'est toute occasion est bonne, j'allais dire, pour se faire entendre et pour essayer de faire réfléchir et de... Enfin, je sais pas, les gens ne sont pas sots quand même. Peut-être que... Je sais pas, peut-être que c'est utopique.
Enfin, c'est peut-être utopique, mais c'est vrai que quand on discute avec des gens en tête à tête, au bout d'un moment, ils comprennent la démarche. Oui. Mais on sent qu'il y a encore du travail derrière pour que ça soit ancré dans l'esprit des gens. Surtout quand on sait que les médias nationaux, que ce soit la presse écrite ou la presse audiovisuelle, a quand même un parti pris net pour les agresseurs pour les violents, en fait, on pourrait dire.
On a en face de nous des forces énormes que l'on perçoit au travers de certains détails. Je vous donne un petit exemple. Vous savez très bien que les enfants aiment bien les bonbons. C'est tout bête. Bon, et nous savons tous très bien que les bonbons, c'est mauvais pour la santé. Il ne faut pas trop en manger. Eh bien, ce fameux maire de cette ville du centre de la France qui invite tous les enfants, de maternelle y compris, au 14 juillet, à intervenir avec ce vocabulaire, ils font un candy bar, c'est-à-dire des petits bonbons. On attire les gens aussi avec du sucre. Mais moi, alors, c'est un détail, vous allez dire. C'est peut-être pas important. Mais il n'empêche que cette communication influence tout le monde, parfois même sans qu'on s'en rende compte. Il faut une vigilance extraordinaire.
À propos de vigilance, c'est vrai que c'est un peu dans la nature humaine aussi d'être plutôt belliqueux. Comment vous faites, vous, les artisans de la paix, du mouvement de la paix, pour déjà, à votre niveau, quand vous avez un conflit avec quelqu'un, comment vous faites pour faire baisser la pression et essayer de résoudre les problèmes de manière...
Moi, je pense qu'il faut commencer par le commencement. Nous sommes peut-être à un point charnière de ce point de vue. C'est que si on est convaincu que tout conflit doit se régler par la négociation, eh bien, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire que à l'école maternelle même, bon, j'ai 91 ans, je sais pas, mais...
C'est passé.
À l'école maternelle même, si des enfants jouent ensemble, il y en a un qui se plaint d'avoir été griffé à la joue par son copain, je pense que jusqu'à maintenant, y compris les gens de métier, disaient, bien, va lui rendre l'appareil à ton copain qui t'a griffé. Alors que maintenant, je pense qu'on réfléchit différemment. On dit, va plutôt lui faire un bisou.
Réagir autrement.
Eh oui, réagir autrement. Je pense que c'est...
Donc commencer par les enfants. Commencer par nos enfants.
Commencer, bien sûr.
Tout à fait.
Parce que jusqu'à maintenant, moi, j'ai eu beaucoup à faire. J'ai élevé des enfants qui n'étaient pas les miens. Et j'ai eu beaucoup à faire à des gens de métier qui étaient des psychologues, appelons-les comme on voudra, mais qui avaient tendance à dire, bon, ben, il faut lui rendre l'appareil à ton copain de maintenance. C'est peut-être, enfin, je pense que ça devrait être différent.
Eh bien voilà, on conclut sur cette idée donc que l'Ukraine est un problème qui malheureusement est assez peu abordé dans ces questions législatives en ce moment. C'est le mouvement de la paix qui aujourd'hui nous éveille à ce sujet et nous dit qu'on ne résoudra jamais rien par la force, par la violence, qu'il y est possible de négocier, que l'ONU est présent pour ça. Je vous remercie à vous tous, le comité Pax Rona qui était présent aujourd'hui. On se retrouve bientôt avec Dodo, Loïc, Anne-Marie et Brigitte. Merci à vous.
Merci.